Il y a un constat étonnant dans cet évangile, c'est que l'on est passé de l'émerveillement au trouble dans la synagogue de Nazareth. Les gens se sont d'abord émerveillés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus, et puis on passe au trouble jusqu'à vouloir le tuer. C'est assez étonnant cela, mais comment est-ce que on peut passer de l'émerveillement au trouble et même au trouble meurtrier? Et Jésus dit cette phrase, « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays ». Et on a ça encore, on a un écho de cela dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, qui nous manifeste qu'il y a quelque chose là d'important, de central, de très sensible. Vous vous souvenez, dans le prologue de saint Jean, on nous dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli ». Il y a un blocage. Il y a un blocage qui se produit et qui est symbolisé par cette remarque qu'ils font « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors qu'est-ce que ça veut dire cette remarque « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Et en fait, le blocage, c'est que Jésus, ils le connaissent, ou plus exactement, ils pensent le connaître. Ils pensent qu'ils ont fait le tour parce qu'ils savent quelque chose de Jésus. Ce sont les gens de Nazareth, il y en a beaucoup qui ont dû grandir avec lui. Ils l'ont vu apprendre le métier de charpentier auprès de son apprenti de Joseph. Et donc, mais c'est étonnant, comment se fait-il qu'il dévoile une dimension qu'on ne connaît pas, ça nous dérange. On avait une place pour lui, et cette place, d'une certaine manière, dans notre idée, elle est inamovible. Il y a là une nuance entre savoir quelque chose et tout savoir. Et parfois, on se dit que on en sait bien assez. Voilà que les habitants de Nazareth, d'une certaine manière, ils aiment bien la nouveauté, mais ils n'aiment pas le changement. Et c'est un terme que l'on peut garder pour nous aussi. Parfois, nous aimons bien la nouveauté, mais nous n'aimons pas le changement. Or, la conversion implique un changement, un retournement. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fermés à la nouveauté de la révélation. Et Jésus fait mémoire de l'histoire d'Israël en disant, ben, ce qui se passe chez vous, ça s'est déjà passé en Israël. Rappelez-vous au temps d'Élisée, quand Naaman vient trouver le roi d'Israël en lui disant, je viens pour être purifié de ma lèpre, le roi de Jérusalem déchire ses vêtements en signe de deuil. Mais regardez ce que cet homme vient faire, il veut me déclarer la guerre, c'est... Il me demande de trouver comment le purifier de sa lèpre, ce n'est pas possible. Et le prophète Élisée fait savoir, il y a bien un prophète en Israël, que Naaman vienne me voir. Et Naaman a été purifié. Il y a parfois une habitude que nous avons, et nous nous sommes dit, ben voilà, le Seigneur, il est là dans ma vie, mais pas plus. Et je n'imagine pas qu'il puisse faire plus, et je n'imagine pas qu'il puisse me dire plus. On peut avoir un petit indice de cette position du cœur un peu fermée, un peu figée, lorsqu'on réfléchit et qu'on se dit « À quand remonte la dernière fois que j'ai essayé de connaître quelque chose de plus sur Jésus ?» Je ne sais pas, en reprenant le catéchisme de l'Église catholique, en avançant dans la lecture des Écritures, en lisant une vie de saint. Parce que si ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça, si ma dernière formation, on pourrait dire, pour connaître Jésus, ça remonte à mon catéchisme, alors c'était bien lorsque j'avais 10, 12 ans, mais si j'en ai 40, 50, et que j'ai pas bougé depuis, il y a un problème. Le Seigneur se révèle à nous, et se révèle de plus en plus à nous. Dans notre lien avec le Seigneur, il n'y a pas de point stable. Soit on progresse, soit on régresse. Alors c'est dur ce que vous nous dites là. Le problème, c'est quand on régresse, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on dit « je pense tout savoir ». Mais d'une certaine manière, le Seigneur ne veut pas simplement que nous sachions quelque chose de lui, une fois pour toutes. Il veut que nous soyons émerveillés de sa présence. Et nous avons parfois perdu cette ouverture et même cette espérance de l'émerveillement de la présence de Dieu. L'émerveillement de la présence de Dieu à nos côtés, dans ma vie, jusque dans la galère de ma vie parfois. Et Qu'est-ce qui se passe avec les gens de Jérusalem? Ils sont à la fois de Nazareth, ils sont à la fois fermés, et en plus, ils ont, j'allais dire, une hypersensibilité à la critique. Vous voyez, quand Jésus leur dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays », c'est pas pour les insulter, hein. Je veux dire, c'est pas très agréable à entendre. Non, mais il y a des fois, il faut dire les choses qui vont pas si on veut y remédier. Mais vous voyez que face à une critique, on n'est pas toujours à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des critiques qui nous ont été adressées et des critiques dont l'objectif n'était pas de changer les choses, mais de nous exclure, de nous mettre à mort, même symboliquement. Et donc on se défend justement contre une mise à mort. Et donc on est prêt à mettre à mort celui qui nous critique. C'est ce qui se passe avec Jésus qu'ils veulent précipiter de la montagne. Il y a une critique qui peut être faite et une critique qui peut être bienveillante. La critique bienveillante, elle n'a pas pour but d'exclure, de détruire, d'humilier. Elle a pour but d'avancer dans la communion avec la vérité. Le signe que Jésus, justement, critique avec bienveillance, c'est qu'il donnera sa vie pour son peuple. Il donnera sa vie pour les gens de Nazareth. C'est pas parce qu'il leur a dit « Ah, vous m'avez pas reçu, c'est pas pour vous que je donne ma vie ». Non, c'est bien pour vous que je suis venu, et c'est parce que je donne ma vie que j'ose vous parler en vérité. Je ne veux pas votre mort, je veux votre vie. Je veux votre vie dans la sainteté, je veux votre vie dans l'émerveillement de l'œuvre de Dieu, que vous ne voyez plus, que vous n'imaginez même plus. Nous pouvons être guettés par la même difficulté que les gens de Nazareth. Et aujourd'hui encore, Jésus s'adresse à nous pour nous ouvrir le cœur, l'intelligence, à l'action de Dieu. Alors peut-être que nous pouvons avoir un petit exercice pratique. Qu'est-ce que le Seigneur, à quoi le Seigneur veut m'ouvrir aujourd'hui? La deuxième lecture peut nous y aider. À quelle nouveauté, et à quelle nouveauté qui transforme, qui change, est-ce que le Seigneur veut m'ouvrir aujourd'hui? Vous avez entendu cette deuxième lecture, l'hymne à la charité, l'hymne à l'amour de saint Paul. Alors on peut dire, il est très beau. On aime bien parler de l'amour parce que tout le monde en a une petite idée, on en a une petite intuition. Et tant mieux qu'on ait une petite intuition. Mais là, le Seigneur est en train de nous dire par saint Paul quelque chose de plus profond. Il est en train de nous dire quelque chose de plus profond parce qu'il est dans la prolongation de ce que saint Jean nous aura dit, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est amour. Ça veut dire que si vous voulez savoir ce que c'est l'amour, nous l'apprenons de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est amour. L'amour n'est pas une réalité à côté de Dieu, à laquelle Dieu participerait. Dieu aime, moi aussi, on se retrouve sur l'amour. Non, Dieu est l'amour. La réalité de l'amour, c'est la vie de Dieu. Aimer, donc, la réalité de l'amour, c'est aimer comme Dieu aime. J'apprends de Dieu ce qu'est l'amour. Vous allez dire, mais j'en ai pourtant une intuition. Oui, vous en avez une intuition, et c'est normal parce que vous avez été créé à l'image de Dieu en vue de la ressemblance. Mais il y a une différence entre une intuition et la réalité profonde qui va au-delà de l'intuition. Parce que, on va dire, dans l'intuition, l'amour, on pourrait dire, c'est un appétit. Ben oui, on dit bien, j'aime le chocolat. J'ai un appétit pour le chocolat, je vois la chose, et d'une certaine manière, ça me réjouit, j'ai envie de cela. Ça parle à mon corps. Alors, je peux voir ça pour du chocolat, je peux voir ça aussi pour un joli visage. J'aime cela. Il y a quelque chose que je découvre là, mais vous voyez que si on en reste là, il y a un danger, parce que si vous posez la question au loup, est-ce qu'il aime l'agneau? Oui, le loup aime beaucoup l'agneau. Seulement, l'agneau a un peu de mal à supporter l'amour du loup de trop près. Il sera un peu moins vivant quand il aura été dévoré par le loup. Donc il ne s'agit pas simplement d'un appétit. On pourrait dire aussi, mais l'amour, c'est un sentiment, et un sentiment, c'est quelque chose de très beau, parce que ça nous unit tout entier. Ça unit mon corps, ça unit mon esprit, ça unit mon souffle. Quel élan magnifique! Oui, mais on voit bien que l'amour, c'est pas seulement un sentiment, parce qu'un sentiment, ça va et ça vient. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous Je l'ai déjà certainement évoqué, vous avez fait ce fameux sketch de Muriel Robin où elle dit « À 4 heures du matin, moi je n'aime personne. » C'est des moments où on n'est pas bien luné et pourtant l'amour est plus profond que ça. Donc l'amour est au-delà du sentiment qui va et qui vient. L'amour est un acte de la volonté et je vais le découvrir en voyant comment Jésus agit. L'amour, c'est une, on pourrait dire, une inclination à se donner, une inclination au don de soi pour le bien de l'autre, pour le vrai bien de l'autre. Vous voyez, parce que parfois on se dit, je fais ça pour ton bien. Oui, mais c'est pas pour ton vrai bien. C'est parce que j'aimerais bien que tu aies ça. Vous voyez, parfois on arrange des bibelots chez nous, et je dis, ah, ça c'est une belle place pour mon bibelot. Oui, mais les personnes, ce sont pas des bibelots. Donc elles sont pas simplement à être placées selon notre désir, indépendamment de ce qu'elles sont en vérité. Et donc nous demandons au Seigneur, révèle-moi Seigneur ce qu'est l'amour en vérité. Rappelle-le-moi, fais-moi progresser pour que je n'en reste pas à mon intuition qui sera peut-être trop courte, parfois même une caricature. Et surtout, si l'amour est de Dieu, et d'ailleurs la charité, on dit que c'est une vertu théologale. Qu'est-ce que ça veut dire, une vertu théologale? C'est une vertu que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Vous voyez, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mon père. Alors, si vous faites de l'haltérophilie, vous allez faire grossir vos muscles. C'est mécanique. Ça marche à tous les coups. Vous faites des exercices, Si vous faites des exercices, vous aurez des muscles durs et gros. L'haltérophilie, résultat mécanique. Je peux le produire par moi-même, par mes efforts. La charité, l'amour de Dieu comme le Seigneur aime, c'est un don que le Seigneur répand dans nos cœurs. Je ne peux pas le produire par moi-même. Je vais reprendre une image que je vous ai déjà donnée. Il y a une chose que je peux faire par moi-même. Quand on dit voilà, que c'est une vertu qui est infusée, vous avez déjà fait des infusions, vous avez déjà fait infuser du thé. Et vous savez que sans s'acheter, il ne se passe rien. Voilà, sans le don de Dieu, il ne se passe rien. Et en même temps, vous allez préparer cette eau qui doit recevoir le don de Dieu. Cette eau, il faut de l'eau chaude. Il faut même de l'eau très chaude. Vous savez comment on appelle l'eau qui est juste sur le point de bouillir, juste avant? On l'appelle de l'eau fervente. Eh bien, il faut un cœur fervent, un cœur qui demande avec ferveur le don de Dieu pour que le don de Dieu se répande en nous et porte son fruit. Mais si nous n'avons pas cette demande, Seigneur, répands en moi ton amour, et Seigneur, mon cœur brûle de te recevoir, alors je ne connaîtrai pas cette réalité. Frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous appelle pour que nous ne soyons pas fermés comme le furent les gens de Nazareth, pour que nous puissions découvrir encore Dieu, découvrir ce qu'est l'amour qui est sa propre vie, et qu'il veut nous partager. Seigneur Jésus, face aux gens de Nazareth qui voulaient te précipiter, tu allais ton chemin. Eh bien, face aux résistances de notre cœur, ne te laisse pas précipiter dans l'oubli de notre cœur, mais va ton chemin. Trace un chemin de vie dans nos intelligences, dans notre mémoire, dans notre volonté. Nous voulons apprendre à aimer comme tu aimes, à nous donner comme tu te donnes, à nous émerveiller de cette vie divine que tu nous partages. Amen.